Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Être ou ne pas être souverain, tel est le défi posé à la nouvelle Commission européenne dont vous êtes le commissaire au marché intérieur et qui a franchi récemment la barre des 500 millions de consommateurs. Au terme d'un incroyable feuilleton politique commencé en 2013, le Royaume-Uni est devenu pour l'Europe un pays étranger. Pour la première fois depuis 70 ans, un pays quitte l'Union européenne. Mais un long face-à-face, en fait, commence entre Londres et Bruxelles pour trouver un accord définitif de divorce. On vous dirait si le Royaume-Uni, nouvelle version, peut réussir à prendre son destin en main et donc être souverain. Signe des temps également, l'Union européenne se rebiffe. À partir de maintenant, elle veut fixer ses règles, ne plus subir celles des autres et mener le rapport de force face aux géants américains et chinois. Pas trop tôt, pourrait-on dire. Et la question se pose même, d'ailleurs, n'est-il pas trop tard? Vous allez nous expliquer comment contenir ce rouleau compresseur chinois qui, justement, a un projet implacable, dominer, contrôler l'économie mondiale. Les enjeux du XXIe siècle ne connaissent pas les frontières. Le numérique, le climat, l'espace, et ce sont vos sujets majeurs, justement, qui sont également sous votre responsabilité. Thierry Breton, vous êtes un ancien ministre de Jacques Chirac, vous avez dirigé un groupe mondial d'informatique, vous parlez directement avec les dirigeants de la planète, et dans cet agenda surchargé, vous avez inscrit le grand rendez-vous pour une première longue explication attendue sur cette époque en pleine mutation sous nos yeux. Pour vous interroger aujourd'hui, Nicolas Barré des Échos et Damien Fleureau de CNews.
Oui, bonjour Thierry Breton. On va démarrer cette émission en parlant du coronavirus. Plus de 300 morts, dont un premier en dehors de la Chine. Un avion avec des rapatriés français qui doit se poser cet après-midi sur la base d'Istres. Alors, il y a les conséquences sanitaires et les conséquences économiques. La Banque centrale chinoise va injecter 156 milliards d'euros pour soutenir son économie. Que fait-on, nous?
Oui, d'abord, si vous permettez... C'est un sujet sérieux, préoccupant, grave. Évidemment, il s'agit de morts, vous l'avez dit, et de personnes nombreuses qui sont désormais infectées. Pas se cacher derrière le petit doigt. C'est une épidémie, et c'est une épidémie mondiale. L'Organisation mondiale de la santé, du reste, vient de décréter, ce qui est quand même assez rare,
l'état d'alerte.
Ben, l'urgence de santé publique de portée internationale. C'est un niveau très élevé d'alerte mondiale.
Elle vous préoccupe?
Mais c'est un sujet bien entendu préoccupant. Bien entendu, on se souvient des épidémies précédentes, notamment le SARS. Il s'agit du reste, je le dis pour nos auditeurs, de la même souche de virus, hein, le coronavirus. Celui-ci s'appelle 2019-CNOV, c'est un dérivé de ce virus. Et on sait que précisément, il y a une propagation vraisemblablement assez rapide. Et on sait aussi que, bien maintenant, il faut travailler très très vite pour trouver... les vaccins, les antivirus qui vont bien, on les trouvera, mais évidemment, il faut mettre beaucoup de ressources.
Mais pendant ce temps, l'économie est à l'arrêt. En Chine, des villes sont...
Bien
sont
sûr.
Qu'est-ce que l'Europe va faire?
Bien sûr. Alors l'Europe, d'abord, est très active. L'Europe a activé son agence européenne de santé qui coordonne l'ensemble des agences européennes. L'Europe coordonne l'ensemble des rapatriements de tous nos concitoyens.
Donc c'est sous votre responsabilité.
L'Europe coordonne l'ensemble des... encore une fois, de tous nos concitoyens européens qui sont en Chine. Bien entendu, ceux qui veulent rester restent, mais nous leur recommandons de venir. Il y a ensuite l'organisation des quarantaines dans chacun des pays européens. Et puis, l'Europe également contribue, paye, je le rappelle, pour 75% le coût de ces rapatriements. L'Europe a décidé également, et ça c'est sous ma responsabilité, j'ai mis immédiatement, lorsque l'alerte a été donnée, j'ai mis immédiatement à disposition des supercalculateurs que nous gérons en Europe, des puissances de calcul très importantes, d'abord pour modéliser précisément eh bien, la façon dont cette épidémie peut se propager et mieux l'endiguer. Et puis aussi, je rappelle que voilà. L'Institut Pasteur a réussi à avoir l'ensemble du génome donc du virus. On y travaille. Il faut des puissances de calcul pour modéliser. Donc on contribue justement, par beaucoup, beaucoup de façons.
Justement, quand on modélise, on s'aperçoit que l'épidémie va atteindre un pic. Alors les Chinois parlent du mois de mars. Est-ce que
confirmez? Pour l'instant, c'est effectivement c'est ce qu'on voit. On va avoir encore vraisemblablement un mois de février compliqué.
Et donc un pic au mois de mars.
Alors, les modèles aujourd'hui, on va voir, bien sûr, il y a des évolutions quotidiennes, et on suit ça quotidiennement à la Commission européenne, et notamment sous l'égide de ma collègue qui s'occupe de la
justement,
santé.
Justement, alors on continuera effectivement à vous en parler. C'était la dernière séance, c'était jeudi, le Parlement européen a fait des adieux aux Européens britanniques deux jours avant le Brexit. sur cette aire-là. On écoute, on regarde.
Quitte l'Union européenne, quelle leçon politique faut-il en tirer ?
D'abord, 3 ans de tergiversation assez apocalyptique, comme il faut bien le dire, pour la Grande-Bretagne, qui ont du reste mis ce pays, pays voisin, pays allié, désormais un ancien pays membre de l'Union européenne, à l'arrêt. La Grande-Bretagne est quand même à l'arrêt depuis 3 ans.
Il y a toujours de la croissance quand même.
Oui, faiblement, mais le pays est à l'arrêt. Il n'y a plus de réformes, il n'y a plus d'investissements, le pays est à l'arrêt. Bon, donc il faut évidemment souhaiter que ce pays reparte. Un pays, il faut bien le dire aussi, qui est désormais, et je le dis clairement, divisé. Divisé profondément. Exactement moitié pour revenir au plus vite au sein de l'Union européenne, et moitié pour essayer de voir si cette aventure peut porter ses fruits.
Donc vous avez raison de chanter, c'est qu'à nous revoir. Vous pensez que l'histoire n'est pas terminée ?
Ça prendra du temps, Michel Darmon. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Et c'est bien ça ce qui m'inquiète, c'est que le pays est divisé pour longtemps. Et donc, vous savez, diriger un pays divisé de la façon dont il l'est, avec des promesses qui ont été faites, certaines pourront peut-être être tenues. Par exemple, le fait de s'extraire des critères de Maastricht pour désormais investir assez massivement et, en même temps, donc, contribuer à la baisse de la livre. Et on sait que ça aura des répercussions sur l'industrie britannique et également sur les citoyens britanniques, mais également tous les autres qui vont vouloir rester le plus possible dans l'Union. Ça va être compliqué pour Boris Johnson. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je regarde maintenant cette affaire de façon très, très froide et très concentrée. J'ai la responsabilité du marché intérieur. Et voyez-vous, le marché intérieur, c'est ce que l'Europe a de plus précieux. Et c'est pour ça que je vous le dis de façon simple ce matin. Les 27 ne seront jamais divisés pendant cette période. Je sais qu'on lit ici ou là que Michel Barnier... Je sais qu'on dit ici ou là que dans la première phase, Michel Barnier a fait un très bon travail, ce qui est exact, pour nous tenir unis. C'était compliqué, parce que là, il s'agissait de prendre une décision politique. On se souvient notamment de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. On se souvient également du sort qui était très important de tous nos concitoyens européens en Europe... En Grande-Bretagne, pardon, et des
Thierry Breton,
Britanniques
pour bien comprendre comment vous allez vérifier, éprouver cette union, cette unité, on va peut-être aborder aussi des conséquences concrètes. On écoute, on regarde Bruno Margolet qui, lui, préside une coopérative maritime à Boulogne-sur-Mer. On en reparle.
L'arrêt d'accès aux zones britanniques, c'est même pas 50%, ça va être 70% en moins. Donc pour moi, le port de Boulogne, toute la filière est impactée.
Alors, dans les négociations, est-ce que les pêcheurs doivent avoir peur ?
Tout va être pris en compte, tout. Et je le redis, et c'est pour ça que je vous ai dit que le grand marché dont j'ai la charge, au fond, c'est la libre circulation des personnes, des biens, des marchandises, des capitaux. C'est aujourd'hui ce qui est le plus précieux pour tous les 27 États membres. Donc, jamais aucun ne permettra qu'il se fissure. Maintenant, évidemment, il y a des sujets qui vont être tous traités. Le problème de la pêche en est un.
Ils ont raison d'être inquiets, les pêcheurs.
C'est un sujet important. Et je rappelle, de quoi s'agit-il ? Il s'agit aujourd'hui du fait que, un, les pêcheurs britanniques exportent plus de 50% de leurs prises en Europe pour d'abord la transformation des produits, et notamment dans le Calaisis, et notamment à Boulogne, mais pas que. Et ensuite, évidemment, les écouler sur le marché européen. Vous savez, des poissons, il vaut mieux les écouler assez proches du lieu de prise et de la transformation. Et c'est pour ça qu'ils souhaitent vivement que ça continue, et nous continuerons à les accueillir, évidemment, pour peu qu'ils respectent les normes. Et la contrepartie, c'est que les pêcheurs, évidemment, européens, en particulier français, puissent avoir accès aux eaux territoriales britanniques. Donc voilà, cette discussion-là aura lieu dans ces termes, mais il y en aura beaucoup d'autres.
On continue justement cette période de transition. Nicolas Barré.
Est-ce qu'il n'y a pas un double discours de la part de Boris Johnson qui veut à la fois retrouver une totale liberté en matière commerciale et puis en même temps avoir un accès complet au marché européen ?
Mais peut-être, il a fait évidemment beaucoup de politique ces derniers temps, tout le monde l'a vu. Et c'était sans doute nécessaire pour pouvoir rassembler tant de positions contraires en Grande-Bretagne. Et je rappelle qu'il a quand même rassemblé sur son nom, évidemment, ceux qui voulaient un Brexit, voire un Brexit dur, et ceux qui voulaient juste que ceci se termine. Et donc aujourd'hui, mais maintenant, il a, je le répète, un pays qui est divisé en deux. Il faut bien comprendre aussi pour nos auditeurs que la Grande-Bretagne exporte 47-50% de ses biens et services en Europe. Elle a besoin de l'Europe. Et elle a besoin de l'Europe, elle connaît mieux que quiconque les conditions, les règles que nous avons bâties, pas à pas, et qui font aujourd'hui de notre marché le premier, je le dis quand même, pardon, excusez du peu, le premier marché au monde. Et donc, bien sûr, qu'ils vont vouloir continuer à en bénéficier, mais nous disons, et je dis, bien entendu, au nom du collège, et notamment sur ce qui est de ma responsabilité, c'est-à-dire le marché intérieur, croyez-moi, nous avons des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'équipes prêtes à discuter. Lorsque le Premier ministre britannique, Boris Johnson, va venir nous demander ben, « je voudrais voir ce qu'on fait sur la chimie, je voudrais voir ce qu'on fait sur l'automobile, je voudrais voir ce qu'on fait sur l'aéronautique », nous sommes prêts. Mais bien entendu, il s'agira de maintenir, pour pouvoir continuer à vendre les produits et services, exactement le même niveau de normes sociales, de normes environnementales, alors, si de contraintes dites, financières. Si... Et donc, ils connaissent parfaitement les règles du jeu. On est prêt, encore une fois, à les accepter. Et bien entendu, secteur par secteur. Mais je rappelle aussi une chose. Si jamais, à l'issue de l'année, c'est lui, au fond, qui a fixé ce calendrier, et je comprends pourquoi. Politiquement, il veut que ce soit derrière lui, et je le comprends. Si à l'issue de ce calendrier, il faut que nos auditeurs le comprennent, et il n'y avait pas d'accord, la Grande-Bretagne rentrerait dans les règles standards de l'Organisation mondiale du commerce. La Banque centrale britannique a dit que dès lors, ce serait entre 5 et 6% de baisse du PIB qui en serait la conséquence. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque Centrale Britannique. Donc voilà, on connaît parfaitement les règles. Puis vous savez, on n'est pas naïf. Personne n'est naïf. On se connaît, encore une fois, on regrette cette situation. On le regrette profondément.
Oui, mais vous êtes en train de gérer un existant, voilà.
Oui, et je vais vous dire, la responsabilité de la Commission, de la présidente von der Leyen et la mienne en tant que commissaire en charge de la cohésion de ce marché, eh bien c'est de faire en sorte qu'il perdure. Et comme pour tout le monde, il n'y a pas un pays au monde qui rentre en Europe en imposant ses règles. Eh bien, désormais, la Grande-Bretagne, qui a décidé de se mettre à côté de nous, devra le respecter. Et je vais vous dire une chose, j'ai aucun doute, elle le respectera.
Alors, on en reparle. Souveraineté, comment faire ? À tout de suite.
Le Grand Rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. 10h, 11h, le Grand Rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Thierry Breton, donc commissaire européen au marché intérieur, pour sa première grande explication. Nicolas Barré.
Et commissaire en quelque sorte à la souveraineté technologique, si on peut dire. Cette semaine, vous vous êtes exprimé sur la 5G. Alors, on sait très bien, le groupe chinois Huawei, qui fournit des éléments critiques des réseaux de télécom, est souvent pointé du doigt aux États-Unis et ailleurs en Europe. Soyons simples, est-ce que d'abord la 5G, ça peut être un instrument d'espionnage au profit de groupes comme celui-ci, de groupes chinois ?
D'abord, je voudrais dire que la décision qui a été prise sur la 5G par l'Union européenne, par l'ensemble des États membres, à l'unanimité et par la Commission, démontre que désormais, je pense qu'il y aura un avant et un après pour la Commission von der Leyen en ce qui concerne la souveraineté et la souveraineté de nos éléments critiques, y compris en matière de technologie.
C'est l'affichage de la souveraineté.
Oui, plus que l'affichage, parce que les conséquences commencent déjà à arriver. Vous voyez déjà un certain nombre d'opérateurs qui tirent les conséquences et les conclusions de ce qui a été fait. Mais... on va pouvoir peut-être en parler. Et je vais juste vous dire que...
Un point, en gros, on a peur d'être espionné, c'est ça ?
Oui, alors, c'est pas exactement ça. D'abord, il faut, si vous permettez une seconde pour nos auditeurs, le réseau 5G, pourquoi les États membres, l'ensemble des États, quand je dis les États membres, c'est l'ensemble des États qui constituent l'Union européenne, ont décidé ensemble, désormais, d'avoir un regard sur le déploiement des réseaux 5G. C'est pour une raison assez simple, c'est qu'un réseau 5G, ça n'a strictement rien à voir avec les réseaux que nous connaissons tous, les réseaux téléphoniques jusqu'à présent.
Donc, entre la 4G,
le GSM,
la 5G,
le 2G,
y a un
le 3G, la 4G, oui. Vous vous souvenez de ces évolutions. C'était des réseaux qui étaient des réseaux essentiellement de communication, de téléphonie d'abord, et puis ensuite de transfert de données bien sûr à faible débit, les SMS par exemple, les petits messages qu'on s'envoie, ensuite un peu plus avec Internet, mais au fond, c'était de la communication, certes, elle a changé notre vie, mais c'était de la communication personne à personne, essentiellement, un peu entreprise, mais pas énormément. La vraie mutation, la vraie mutation avec les réseaux 5G, c'est que c'est un déploiement qui va permettre à des milliards d'objets connectés, c'est le monde dans lequel nous entrons, d'être connectés. C'est quoi ces objets connectés? C'est bien sûr désormais des véhicules connectés, ce sont des transports connectés, ce sont des hôpitaux qui vont entièrement être connectés, y compris pour faire de la télémédecine et d'autres. Ce sont des réseaux d'énergie. C'est tout ce qui va aujourd'hui, je vous donne un chiffre, il faut avoir en tête, à l'horizon 2030, nous aurons sur la planète 500 milliards d'objets connectés pour à peu près 8 milliards
mais
d'habitants. Coup, je dis bien 500 milliards
d'objets connectés. Du coup, Thierry Breton, le risque, c'est justement la perte de contrôle ou plutôt l'utilisation de ces réseaux par les puissances étrangères.
Voilà, exactement. C'est exactement, je crois, comme ça qu'il faut justement se poser les termes sur ce réseau spécifique. C'est parce que, précisément, il va gérer des éléments notamment de souveraineté des États. Par exemple, la gestion intégrale d'une ville,
l'énergie.
La gestion d'une région, l'énergie, ça appartient à la souveraineté des États. C'est la raison pour laquelle les États se sont dit, il fallait qu'on se mette d'accord pour d'abord évaluer qui seraient les fournisseurs à risque, notamment, et vous avez raison, pour des problèmes d'espionnage, de vol de données, éventuellement aussi d'intervention illicite dans ces réseaux pour créer des perturbations, mais pas uniquement des États, tous ceux qui auraient des intentions malveillantes, parce qu'encore une fois, ces réseaux gèrent des opérations critiques. Alors qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, les États se sont mis d'accord, ils ont d'abord évalué quels seraient les critères à retenir pour qualifier qu'un opérateur est à risque ou qu'il n'est pas à risque. Je vous donne un exemple. La gestion de ces réseaux, encore une fois, qui vont se déployer dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent, et pour lesquels, et c'est très important, l'Europe, non seulement n'est pas à la traîne, mais est en tête. Parce que j'entends ici ou là que nous sommes en retard, que notre avenir est derrière nous, c'est faux, je vous donne quelques chiffres. Nous avons aujourd'hui des industriels européens qui possèdent plus de 55% des brevets 5G, et non pas les Chinois qui en ont 30% ou les Américains qui en ont
14%.
Donc ce sont les Européens qui sont en tête en matière de recherche et de brevets critiques. Et également, si je vois maintenant les contrats qui sont passés partout dans le monde, aux États-Unis, bien sûr en Europe, mais aussi au Japon ou en Corée, plus de la moitié aujourd'hui des contrats 5G sont confiés à des entreprises européennes. Donc nous, on n'est pas en retard.
Parfait, mais à part avoir demandé aux opérateurs, aux télécoms, au fond, débrouillez-vous. Gérez vous-même la situation. Ils sont un peu remontés en ce moment. Ils disent, mais finalement, on doit nous-mêmes gérer une situation que l'État nous a indiquée comme critique.
Voilà.
Qu'est-ce que vous faites?
Voilà. C'est très important parce que le rôle de la Commission, et mon rôle en particulier sur le marché intérieur, c'est de donner de la lisibilité et des règles. Et de dire que nous accueillons tout le monde,
lisible.
Mais que désormais, il faut, pour opérer sur le marché européen, respecter toutes nos règles. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Mais précisément, les opérateurs de télécom sont enfin contents et c'est normal, mais pas que. Il y a aussi les industriels qui vont utiliser ces données. Parce qu'eux-mêmes seront responsables si jamais on pénètre, par exemple, un réseau de transport, un réseau de distribution d'énergie et que ça crée des perturbations, ce seraient les entreprises qui les gèrent qui seraient responsables. Donc tous attendent précisément pour effectuer correctement leur travail et leur choix d'avoir ces listes qui qualifieront aujourd'hui, mais aussi demain, ce qu'est un fournisseur à risque, et puis derrière, parce que c'est pas tout de le qualifier, d'avoir les éléments, c'est ce qu'on appelle la boîte à outils, les éléments qu'il faut mettre en face pour mitiguer ces risques et les éradiquer. Et si un industriel ne peut pas y répondre, eh bien il sera pas autorisé. Et si un industriel peut y répondre, il sera le bienvenu, d'où qu'il vienne, de quelque continent que ce soit.
Pourquoi Orange a décidé d'ores et déjà, sans peut-être attendre que ces critères que vous définissez là, que vous déclinez arrivent, de se dire on va se passer, on va interdire Huawei. Au fond, vous avez par le passé dirigé France Télécom.
C'est vrai,
vous auriez interdit.
C'est vrai. Eh bien, j'aurais fait, je crois, exactement ce qu'a fait le président d'Orange, c'est-à-dire que j'aurais attendu d'avoir la liste qui a été établie conjointement et à l'unanimité des critères de risque qu'il fallait mitiguer. Cette liste a été connue, rendue publique mercredi. Deux jours plus tard, elle a été connue de tous. Ben, les opérateurs maintenant, au regard de cette liste et de la criticité, encore une fois, des opérateurs et des solutions qui sont apportées, ils prennent leur décision en toute connaissance de cause. Ils ont donc considéré qu'au regard de cette liste, eh bien, il fallait qu'ils prennent la décision qui est la leur. Et en tout cas, ce qui est très important,
c'est un signal politique.
Attendez, je vais aller au bout, si vous permettez, Michel Darmon. Et en tout cas, ce qui est très important, c'est que la chaîne de sécurité, désormais, dans le monde de la donnée, où les données vont devenir de plus en plus importantes, le monde de l'information, c'est bien entendu la règle, c'est la Commission qui donne les règles. C'est ensuite les États qui sont chargés de les appliquer là où est leur responsabilité, ce sont les opérateurs télécommunications qui sont responsables si jamais il y avait des fuites ou des problèmes sur la gestion qu'ils opèrent pour le compte de leurs clients, ce sont les industriels qui aussi sont responsables en bout de chaîne. Et moi, mon rôle, alors, si vous voulez, avec la commission, c'est de donner de la lisibilité et quelque part un cahier des charges et une boîte à outils pour que tout le monde comprenne désormais quel jeu jouer dans cette chaîne. Je me réjouis, encore une fois, que sans heurts, nous y avons pu convaincre tous les États membres d'avoir la même posture.
Une question, Nicolas Barré.
Plus largement, on parle de la fin de l'Europe naïve. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour agir sur deux sujets clés comme font les Américains, c'est-à-dire par rapport à la Chine, c'est-à-dire les aides d'État qui font que des grandes entreprises chinoises sont des concurrents souvent déloyaux, et puis la propriété intellectuelle qui, là-bas, est mal protégée. Donald Trump a une stratégie extrêmement offensive vis-à-vis de la Chine, et nous ?
D'abord, la Chine est un grand partenaire et considérée comme telle par l'Union européenne et continuera à être considérée comme un grand partenaire. Mais cependant, et je le redis, nous avons des règles et notre rôle au sein de la Commission, avec mon collègue notamment Phil Hogan, qui est en charge du commerce, avec moi-même sur le marché intérieur, c'est de veiller à ce que ces règles soient appliquées par tous ceux qui pénètrent ou qui veulent pénétrer et vendre leurs produits et services sur le marché.
Non,
c'est très clair. Et c'est un formidable atout pour tous nos concitoyens européens. On s'en rend pas bien compte, mais c'est un formidable atout pour tous nos concitoyens européens. Sur les aides d'État, Nicolas Barré, vous avez raison. Et du reste, dans les mesures à vérifier, nous avons indiqué qu'il était indispensable que chaque opérateur télécom pour la 5G ait au moins deux fournisseurs, et qu'évidemment ces fournisseurs ne soient pas attaqués indirectement par des entreprises non européennes qui répondraient à tous les critères, mais qui bénéficieraient d'aides d'État. Donc nous avons indiqué que nous allions lancer, avec Phil Hogan, ce qui est tout à fait le droit et le sien comme le mien, des investigations pour vérifier, dans certains cas, si jamais il y avait des plaintes ou si nous avions des informations, oui, que ces entreprises ne disposent pas d'aides d'État qui faussent la concurrence.
Parce que vous dites,
croyez-moi,
c'est
tout
un
ceci, encore une fois, fait partie des panoplies qui sont à notre disposition et que j'ai bien l'intention, bien entendu, de mettre en œuvre désormais.
Alors Thierry Breton, pour bien comprendre, vous dites qu'effectivement la Chine est un grand partenaire pour
entre
la France et l'Europe, et en même temps très soupçonné d'être dans l'espionnage permanent.
Mais non, mais si vous voulez,
comment vous réglez ces deux approches ?
Il faut juste peut-être, si vous permettez, il faut peut-être.
Vous permet.
Merci. Mais on est dans un monde désormais où les données deviennent un enjeu absolument essentiel. C'est tellement vrai, on l'a vu du reste, avec les données personnelles, pour éviter, parce qu'il faut appeler un chat, c'est vrai que jusqu'à présent, les données personnelles, et notamment des Européens, se sont fait peut-être abondamment piller, d'abord sans qu'on s'en soit conscient, après ça avec un semi-consentement, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en Europe la Réglementation Générale des Données Personnelles, première mondiale, qui protège désormais les concitoyens, et c'est notre rôle que de les protéger.
Donc on est dans l'RGPD ou aux entreprises, c'est ça ?
Mais maintenant il y a notre enjeu, qui est, je disais tout à l'heure, le véritable enjeu qui est devant nous, la vague, le tsunami, si je puis dire, des données, ce sont les données industrielles. Alors, là, l'Europe est le premier continent industriel. Nous avons 25% de notre activité industrielle. On est le premier continent industriel. On l'oublie un petit peu. Et évidemment, notre rôle, avec tous mes collègues à la Commission, c'est de faire en sorte que non seulement on le demeure, on le reste, mais aussi que toutes les données industrielles qui vont être générées bénéficient précisément aux Européens. Et voyez-vous, il y a quelque chose, et je m'en suis jamais caché, qui gêne beaucoup, voire choque beaucoup, beaucoup des entreprises européennes dont moi-même j'ai la charge dans mon portefeuille. C'est le fait que vous avez des lois comme par exemple le Patriot Act aux États-Unis ou le Cloud Act, qui donnent le droit à un juge fédéral d'aller de façon extraterritoriale, voire prendre des données sans même que des entreprises en soient conscientes, au nom de la défense, la lutte contre le terrorisme ou d'autres critères. Eh bien, nous disons en Europe, c'est plus concevable, ça se fera plus comme ça pour les entreprises européennes. La même chose en Chine, où depuis 2017, vous avez une loi qui est encore plus dure, je dirais, pour éventuellement ceux qui pourraient en être les victimes, qui indique que les entreprises chinoises ont l'obligation de coopérer avec l'État et de donner à l'État toutes les données qu'il gère pour le compte de tiers, sur simple demande. Eh bien, nous disons que ça, c'est pas possible et que donc, c'est la raison pour laquelle nous mettons désormais des règles et que ces règles, elles seront claires et lisibles. On accueille tout le monde, mais il faudra les respecter. Si je prends une métaphore,
on en
Europe,
après
si je prends une métaphore,
Petite métaphore. Allez-y.
En Europe, c'est vite, on fait vite. En Europe, on conduit, on roule à droite. Les voitures sont autorisées si elles respectent les normes, mais on roule à droite.
On se retrouve pour continuer sur les métaphores.
Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, qui nous explique que désormais l'Europe fixe ses règles. Enfin, peut-être, on écoute, on regarde le président de la République.
On doit pouvoir, nous, Européens, produire nos propres batteries. C'est ce grand plan d'un Airbus des batteries électriques qui a été lancé, dans lequel on va investir massivement avec nos industriels.
Alors voilà, on a encore la formule, le fameux Airbus des batteries cette fois-ci. C'est faisable ?
Oui, c'est faisable, Mickaël Darmon, parce que ce qui est important derrière ce que vient de dire le président de la République, c'est que nous, précisément, pour pouvoir lutter à armes égales avec les grands acteurs qui sont américains, chinois, coréens, que sais-je, de tous les continents qui nous entourent, qui sont à la fois nos partenaires et nos concurrents, nous devons avoir des filières qui puissent bénéficier de soutien, d'aide également des États, comme le font d'autres pays, mais de façon extrêmement transparente. C'est ça ce qu'appelle le président de la République les Airbus, c'est-à-dire la possibilité de se mettre à plusieurs, beaucoup d'industriels, sur une chaîne, là on parle par exemple des batteries, c'est très important, avec des financements qui sont des financements compatibles avec les règles de l'OMC, des financements de l'Union européenne, mais aussi des financements des États membres, pour pouvoir précisément, dans certains cas peut-être rattraper en retard, et d'autres cas prendre un leadership. Tout de suite, ça c'est tout de suite, ça a été inauguré il y a 3 jours, je crois, par le président de la République. Il y a également, Damien Fleurot, d'autres secteurs qui sont importants et que je vais pousser. Par exemple, tout ce qui concerne la combustion hydrogène. Il y a une filière très intéressante qui est à l'étude et j'espère qu'elle va voir le jour rapidement. Je vais en tout cas m'en occuper très sérieusement. Tout ce qui concerne l'Internet des objets, ce que je disais tout à l'heure, ces connexions de milliards d'objets qui communiquent entre eux et qui échangent des informations, l'intelligence artificielle, qui est un sujet absolument essentiel, sur lequel nous allons du reste présenter avec ma collègue Margaret Vestager, un livre blanc, on appelle ça dans notre jargon, qui permet précisément d'avoir la position de l'Union européenne et de créer donc des filières verticales où l'Europe va pouvoir créer
des grandes
entreprises. Que s'est-il
passé pour que tout d'un coup vous ayez eu la lumière, Nicolas Barré? Alors,
justement, créer des filières verticales, comme vous dites, mais on se souvient il y a quelques temps, il y a 2 ans, Bruxelles avait refusé, par exemple, le rapprochement entre Alstom et Siemens dans le ferroviaire. Décision très critiquée parce qu'au même moment, les Chinois créaient un groupe encore plus gros chez eux. Aujourd'hui, Alstom, par exemple, envisage de se rapprocher d'un autre groupe du Canadien Bombardier, toujours dans le ferroviaire. Est-ce que Bruxelles, là-dessus, va changer de doctrine ?
Il y aura feu vert ?
Alors, ce qui est très important, c'est que vous disiez, je réponds à la fois peut-être, si vous le permettez, à Nicolas Barré, mais aussi à l'interpellation de Monsieur Darmon. Qu'est-ce qui a changé, au fond ? Je crois que ce qui a changé, c'est que les États membres ont demandé à ce que, précisément, dans ce nouveau monde qui vient, ce que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, appelle désormais la nécessité d'avoir une commission géopolitique pour faire face, précisément, à ces nouveaux rapports de force dont il faut bien le dire qu'ils sont incertains et fluctuants. Mais aussi, la nécessité d'avoir désormais beaucoup plus de souveraineté, comme vient de le rappeler le président de la République. Tout ceci fait partie de la lettre de mission qui a été établie à l'unanimité par les États membres lorsqu'ils ont proposé la nomination de Madame von der Leyen qui a été ratifiée ensuite par le Parlement européen. Et donc, précisément, dans la lettre de mission de Madame von der Leyen, qu'elle ensuite décline sur les différents commissaires, eh bien, il y a la nécessité, un, d'avoir une politique industrielle clairement établie. Ça n'existait pas auparavant, Michael
Donc,
Darmon.
Et
c'est peut-être ce qui manquait, précisément, pour étudier des cas, notamment celui auquel vous faites référence, Nicolas Barret. Ça manquait pour que, précisément, les règles de concurrence...
Mais qu'est-ce qui manquait ? C'était l'intelligence ?
Été...
C'était l'approche ?
C'était tout simplement la mentalité ?
Qu'est-ce qui manquait ?
C'était tout simplement de se mettre...
intelligent à Bruxelles.
C'était tout simplement d'en faire un véritable axe politique. Je ne veux pas rouvrir un débat qui est douloureux, mais c'est vrai que nos amis britanniques n'étaient jamais très favorables. Ils n'étaient jamais très favorables à ce que l'Union européenne ait une politique industrielle. Eh bien, désormais, ce sera le cas.
Bon,
et ça nous aidera précisément à revisiter les règles de concurrence.
Une commission plus géopolitique. Il va vous falloir beaucoup d'agilité aussi pour mener à bien votre projet, un pacte vert, un Green Deal, pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Quand on a vu ce qu'il s'était passé en France avec la taxe carbone notamment, vous pensez que les Européens sont prêts à payer pour l'écologie ?
Damien Fleureau, c'est un sujet extraordinairement important. Vous avez dit deux choses. Vous avez parlé du pacte vert et vous avez donné la date. Cette
2050.
Date, c'est 2050. C'est une ambition. C'est donc après-demain. Et pourquoi ? Pourquoi nous avons donné une date qui est quand même à la fois proche mais aussi éloignée ? Parce que derrière, effectivement, cette ambition... Il y a la volonté et les moyens de changer radicalement nos façons de produire, nos façons aussi peut-être de consommer, nos façons de vivre ensemble, avec la nécessité d'être un continent carbone.
Donc avec des sanctions neutre. Par exemple ?
Non,
comment faire,
non,
voilà,
non. Alors pour répondre plus précisément à la question de Damien Fleureau, avec la nécessité d'avoir pour le financer en particulier, et ça revient aux discussions que nous avions sur le marché intérieur, nous allons mettre ce qu'on appelle des mécanismes d'ajustement aux frontières, évaluant les normes
des
produits, les normes des produits qui pourraient rentrer en Europe. Si jamais ils n'ont pas les mêmes normes environnementales, il y aura donc un mécanisme d'ajustement financier, vous appelez ça basiquement une taxation, c'est un peu plus sophistiqué, mais ça revient à ça, de façon, encore une fois, à protéger les entreprises et les industries européennes et à leur donner le temps de se transformer. Pourquoi 2050 ? 2050, c'est entre maintenant, on est en 2020, on a une commission qui va se dérouler sur les 5 ans qui viennent, on met tout ça en place sur les 5 ans qui viennent, donc non, il n'y aura pas de taxe immédiate, d'impôt immédiat tel que vous y faisiez référence, Damien Fleureau. On se donne les moyens de tout transformer et on a ensuite une génération pour transformer la filière en mettant les moyens financiers qui vont bien. D'abord, les moyens immédiats avec un fonds de transition juste pour accompagner les régions de l'Europe qui sont les plus touchées, qu'il faut décarboner le plus rapidement possible. C'est un fonds d'une centaine de milliards. Et puis derrière, des mécanismes plus sophistiqués. Et là, vous avez raison, les montants sont importants. Je l'ai dit à nos auditeurs ce matin, c'est pour les 10 prochaines années. Investissement public-privé, hein. Il y a aussi beaucoup d'investissements privés qui vont être refaits, notamment
vous
pour
voyez
moderniser
les
filières. C'est 10 000 milliards.
Quand vous regardez la France, est-ce que qui tente de verdir son économie, les investissements, c'est compliqué à les verdir, ça prend du temps, la politique, la mentalité. Vous voyez les batteries de normes qu'il faut remettre en place. Vous voyez les États être capables, dans ce laps de temps, de changer complètement de logiciel ?
Je le redis, c'est un projet de 30 ans, c'est une nécessité absolue pour nous, alors désormais 450 millions d'Européens. On est quand même, je rappelle que c'est pas rien l'Europe. L'Europe, certes, on est un peu moins riche, un petit peu moins riche que les États-Unis, mais pas trop. Mais on est plus nombreux que les Américains. Certes, on est moins nombreux que les Chinois, mais on est beaucoup plus riche que les Chinois. Alors. L'Europe, c'est pas rien. Et quand l'Europe décide ensemble, à l'unanimité, de se fixer cette ambition, nous savons, Michael Darmon, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons d'abord que ça va générer des investissements et des innovations technologiques majeures, et que quelque part, il va y avoir, pardon cette expression un peu triviale, des effets de bord. Les uns et les autres vont devoir en tenir compte. C'est comme
Alors,
ça.
Il y a un autre domaine où l'Europe va être plus autonome. Hein. Les Américains nous disent qu'on ne dépense pas assez pour notre défense. Vous militez depuis longtemps
c'est
pour
développer
des projets communs, mutualiser certaines
dépenses,
etc. Je pense
aussi qu'on ne dépense pas assez.
Alors justement, quelles initiatives,
parce que
la défense est dans votre portefeuille, quelles initiatives comptez-vous prendre dans ce domaine ?
Sujet essentiel et très compliqué. Sujet essentiel, vous le rappeliez implicitement, peut-être Nicolas Barret, il y a quelques années, j'avais émis l'idée d'un fonds européen de défense. Je n'étais plus que simple citoyen, ancien ministre certes, mais cette idée, avec beaucoup d'autres, a progressé. Et désormais, pour la première fois, et c'est un atout très important de la commission de Jean-Claude Juncker, l'ensemble des États membres à l'unanimité a décidé de créer un fonds européen de défense, dont j'ai la charge maintenant, qui a pour principale vocation de mettre ensemble des industriels, des grandes entreprises comme des petites, sur tout le territoire européen, pour bâtir ensemble, et le mot c'est ensemble, une industrie européenne de la défense. Car sans intérêt, appétence commune pour ces sujets, on n'aura pas d'Europe de la défense.
Alors donc ce fonds est quand même assez modeste pour l'instant.
Oui,
comment est-ce que c'est quelques centaines de millions d'euros? Pour changer d'échelle.
Alors le fonds, il a un fonds qui est initié avec des fonds propres qui vont être de l'ordre de 7,5 milliards, c'est en tout cas ce qui est prévu que 13 milliards pardon qui est prévu dans le budget, c'est 13 milliards.
Et derrière
évidemment ces 13 milliards donnent une possibilité. Oui, enfin c'est on est en train de discuter maintenant, ça va être mis en œuvre dans le mois qui vient.
La vraie aventure.
Derrière, c'est 100 milliards. Donc, c'est des investissements très significatifs qui vont être faits mutuellement sur des projets d'intérêt commun à vocation de défense et d'espace. Et ça, encore une fois, c'est une immense première. On se rappelle tous les débats qu'on a eus. Chaque pays de l'Union européenne a son histoire particulière avec la défense. Et quelque part là, on a trouvé un moyen, enfin, de parler ensemble, de travailler ensemble, d'investir ensemble. Et je vais veiller, bien sûr, puisque vous l'avez rappelé, j'en ai la charge, je vais veiller à ce qu'aucun pays ne soit laissé au bord de la route, car c'est comme ça qu'on construira une Europe de la défense, avec un intérêt commun pour la défense.
Est-ce que l'Europe construit une nouvelle aventure spatiale? Vous avez parlé récemment, justement, aux principaux acteurs de manière assez directe, d'ailleurs, leur reprochant un certain nombre de problèmes. Au fond, on voit comment l'armée française aussi tente de se réorganiser en incluant maintenant aussi les données spatiales. Est-ce que c'est le nouvel espace, si je puis dire, européen?
L'espace est un formidable succès européen. Formidable succès. Je le dis pour nos auditeurs parce que des fois, on l'oublie. D'abord, on a une stratégie autonome de lanceurs. On est l'un des seuls continents qui sait lancer des satellites et même très éloignés. Et on sait le faire admirablement. L'Europe de la défense, de l'espace, pardon, c'est aussi Galiléo. Galiléo, c'est quand même aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs dans le monde avec un système GPS, tout le monde connaît maintenant les GPS, qui est le plus performant au monde, beaucoup plus performant que le système américain. Beaucoup plus performant. Mmh. Et on va lancer la deuxième génération, je l'ai annoncé précisément, qui va être encore plus performant. L'espace européen, c'est aussi Copernicus. Ce sont des satellites d'observation de la planète qui sont parmi les plus sophistiqués au monde et qui permettent en permanente ces constellations de satellites, de suivre ce qui se passe partout sur la planète. Alors, des applications civiles évidentes, par exemple, on vient de mettre l'intégralité de notre réseau Copernicus à la disposition de nos amis australiens pour suivre très précisément ce qui se passe sur ces incendies tragiques, mais aussi, évidemment, des applications militaires. Pourquoi ai-je, effectivement, c'est ma responsabilité aujourd'hui, pourquoi ai-je été, vous le disiez, pas été dur, j'ai simplement dit que désormais il fallait qu'on travaille un peu mieux ensemble. Il y a beaucoup d'agences différentes qui travaillent dans le domaine de l'espace. On a un budget ambitieux de 16 milliards d'euros à négocier dans le budget qui est mis sur la table aujourd'hui sous présidence croate. Je vais veiller évidemment que ce budget soit intégralement atteint, mais c'est vrai aussi qu'il faudra sans doute travailler un peu plus ensemble pour faire mieux avec l'argent des contribuables.
Alors on se retrouve dans quelques instants et on revient sur Terre.
Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. 10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Thierry Breton, le commissaire européen chargé des marchés intérieurs, qui nous a fait prendre de l'espace, qui nous a fait voir un petit peu justement ce qui pouvait se passer très très haut dans le ciel. Il reste encore avec de la distance pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans cette première décennie du 21e siècle, qui s'est terminée sur une vague de protestations au Chili, à Hong Kong, en France. On l'a vu avec les Gilets jaunes. La grande idée de ce début de siècle, c'est d'être contre.
D'abord, il y a un élément évidemment nouveau, c'est que avec l'émergence des réseaux sociaux, chacun se considère un peu comme étant désormais au centre de son propre univers, son propre espace. Et c'est un changement évidemment radical qui a pris de court beaucoup de nos démocraties et beaucoup du lien social que nous avons bâti tous dans l'ensemble de nos pays au cours des décennies et des siècles passés.
Et qui a pris de court surtout peut-être les élites de ces pays dont vous parlez, parce que tout d'un coup, eh bien, tout le monde a pu justement s'exprimer ou avoir voix au chapitre,
oui,
sur toute une multitude de sujets.
Les élites... Ce qui aussi rapporte tout cela, les journalistes, enfin tous les observateurs, les institutions, oui. Tout le monde a été pris de court. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je m'attache beaucoup. Alors, j'aime pas trop le mot réguler, mais là, il y a quand même des excès qu'il faut corriger sur les discours haineux. Et on en voit en France ces derniers jours, de façon absolument dramatique, sur les appels à des actes terroristes, ou sur des actes beaucoup plus terribles pour la dignité humaine, la pédophilie, mais aussi sur les fake news, qu'on appelle ces... Donc tout ça, je peux vous dire que c'est un sujet sur lequel nous travaillons à la Commission d'arrache-pied. Je vais du reste aller voir nos alliés américains. Je rappelle que les États-Unis sont les alliés de l'Europe. Et donc, avec mon collègue Phil Hogan, nous allons aller les voir pour commencer à voir comment travailler ensemble. Parce que je crois que c'est ensemble qu'il faut avoir une appréciation sur ces problèmes qui ont eu des conséquences. Vous le rappeliez. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr.
Mais comment on régule alors qu'on est quand même attaché à la liberté d'expression, tous?
Bien sûr, on est attaché à la liberté d'expression, mais on est aussi attaché au fait, à la dignité et à la responsabilité. Vous savez, Nicolas Barret, vous, le soir, on a un certain nombre d'entre nous des enfants, voire des petits-enfants, et il y a des endroits, encore, hélas, dans différents pays de l'Union européenne, et en France aussi, évidemment, où on n'a pas envie de laisser nos enfants aller le soir. Et bien sûr, Internet, c'est la même chose. Il y a des endroits où on ne doit pas laisser ses enfants aller seuls le soir, y compris sur le dark web.
Thierry Breton, quel est votre regard aujourd'hui sur l'état de la société française? Encore, par exemple, hier, quelques manifestations de gilets jaunes, des mouvements de protestation chaque semaine contre la réforme des retraites. Votre regard?
D'abord... Pardon, mais vous savez que je suis commissaire européen. Donc, j'ai un regard qui est celui-ci désormais. Personne ne m'a forcé d'accepter cette mission, elle m'honore, mais j'en respecte toutes les règles désormais. J'ai prêté serment à Luxembourg, bien sûr, et je regarde tous les pays. Donc je ne vais pas parler que de la France, si vous permettez, même si évidemment c'est mon pays, ça le reste, et j'y suis évidemment très attaché. Oui. Et je vois évidemment en France comme ailleurs qu'il y a un certain nombre d'actes d'incivilité qui sont juste totalement inadmissibles dans des états de droit. Nous avons tous, peu ou prou, les mêmes socles d'état de droit. Bien sûr, certains sont un peu en retard, on les corrige. Mais globalement, c'est totalement inacceptable. Et donc, on a des instruments pour ça. Des instruments qui sont des instruments juridiques en particulier. Il faut les exercer,
Vous voulez qu'on parle d'autres pays également de l'Europe. Des conseillers de Matteo Renzi disent « Attention !» pour tirer les leçons de l'échec de leur chef, attention à la réforme de trop, celle qui ligue tout le monde contre le leader. Est-ce que ce risque-là, on n'est pas en train de le vivre peut-être en France ou dans d'autres pays?
Surtout, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, à l'heure des réseaux sociaux. À la fin, si vous voulez, vous êtes bien placé pour le savoir. Bien sûr, dans les réformes, chacun doit s'exprimer, chacun doit se faire entendre. Et puis, une fois que la phase de discussion, de négociation a eu lieu, eh bien, il y a un état de droit, dans nos démocraties, c'est à la fin le Parlement qui décide, qui tient compte évidemment de tout ceci et qui vote. Et je rappelle que le Parlement représente le peuple souverain. Alors, voilà, je suis pas aveugle, mais au fond.
Alors, qu'est-ce que vous voyez?
Mais au fond, je vois aussi, je vois quelque chose peut-être d'un tout petit peu plus, comment dirais-je, profond, si je peux me permettre. D'abord, contrairement à ce qu'on a dit, les populismes évoluent aussi. Je me souviens qu'il y a 3 ou 4 ans, tout le monde se réjouissait formidablement de ce qui s'était passé sur le Brexit. Je me souviens que tous les partis populistes voulaient sortir de l'euro. Aujourd'hui, il n'y en a plus un seul qui veut sortir de l'euro. Je me souviens que tout le monde avait dit, après on est les prochains sur la liste, aujourd'hui il n'y a plus personne qui dit qu'ils veulent sortir de l'Europe. Donc je vois aussi que, heureusement, les mentalités
reste
évoluent.
Il reste des partis qui militent.
Heureusement. Oui, il reste des partis qui militent. Je vois aussi que monsieur.
Le populisme recule, c'est ça que vous voulez dire?
Non, je vois que derrière, il y a des vagues nouvelles. Ben, finalement, on comprend, heureusement, avec le temps, il y a quand même certaines choses qui sont dites, certains éléments de façon un peu simpliste et caricaturaux, qui finalement ne volent pas très loin. Je vois aussi que monsieur Salvini n'a pas eu le succès qu'il a eu en Italie, escompté.
Vous avez
compris le week-end dernier.
Il y a une partie des sociétés qui disent c'est pas si grave que ça, finalement.
Non, rien n'est. En démocratie, tout est grave. Non. En démocratie, tout est à considérer. Il n'y a pas de petits sujets. En démocratie, tout est important. Alors, mais je vois aussi certains pays de l'Union européenne qui se vident de leur population, et notamment les pays de l'Est, je pense à la Hongrie, je pense à la Roumanie, je pense à la Bulgarie, je pense à la Tchéquie, et ça crée des situations dramatiques. Il faut qu'on veille, précisément, nous, en Europe, à faire en sorte que l'ensemble de ces... Et souvent, ce ne sont pas les moins mauvais, comme vous savez, enfin, les moins éduqués, en tout cas. Et donc, il faut... Et c'est aussi... Là, de nos travaux, avec notamment mon collègue Nicolas Schmitt, qui s'occupe de ces questions à la Commission européenne, au collège, de veiller à ce que ça ne se produise pas, sans ça, évidemment. Vous vous rendez compte que dans des pays quand même, par exemple la Bulgarie ou la Roumanie, c'est 20% de population en moins en l'espace des 10 dernières années. C'est considérable. Donc derrière, eh bien, évidemment, il ne faut pas s'étonner de voir ce que ça peut produire comme effet, précisément, y compris sur la démocratie. Et ça, c'est un sujet, croyez-moi, à la Commission qu'on regarde avec la plus extrême attention.
Le président de la République avec lequel vous parlez depuis longtemps a été un candidat de tous les sujets que vous évoquez depuis tout à l'heure, le numérique, l'échange, le circulaire. Et puis, dès qu'il est arrivé au pouvoir, on a vu la verticalité, la décision, l'autorité. On se souvient de quelques démarches emblématiques. Est-ce que ça n'a pas été là la source, peut-être, d'une forme de rupture dans son lien avec les Français?
Je crois que si on regarde l'étincelle, si vous voulez... Moi, j'ai une vision pardon de le dire comme ça, mais un peu systémique des choses. Vous savez, quand vous avez une génération... à laquelle on dit d'abord, et je parle notamment de la France, et je m'en suis souvent ouvert, y compris à vos micros, qu'on lui lègue désormais une dette qui est équivalente à 100% du PNB. Et que par ailleurs, on lui dit, bon, ça, il faudra bien que vous la payiez, parce que nous, notre génération, on ne veut pas la payer. Ce que je trouve absolument, totalement inacceptable, voire intolérable, et vous savez que c'est un de mes combats, et un des combats de ma vie, si je peux me permettre, et que je le mène depuis longtemps, y compris lorsque j'étais à Bercy. Et deuxièmement, vous lui dites, et en plus, ça c'est la dette du passé, mais en plus, tiens, il y a une dette d'avenir. C'est que désormais, il faut aussi payer de l'impôt pour nettoyer la planète et faire en sorte qu'elle ne pollue plus. Et bien, cette génération, elle dit, mais alors, et moi, comment je vis? C'est aussi ça ce qui s'est passé, Michael Darmon. Et c'est précisément sur ces deux questions. Comment on règle les dettes du passé? Et comment on fait que la dette d'avenir soit compatible et supportable, absolument, Damien Fleurot, avec la nécessité tout simplement de vivre, c'est effectivement notre travail, et croyez-moi, c'est ma préoccupation quotidienne à la Commission, c'est comme ça que je me pose les problèmes.
Est-ce que le même temps est devenu le contre-temps?
Vous voulez me faire parler de physique quantique, peut-être?
Non, d'Emmanuel Macron, ce sera plus lisible pour nos auditeurs et téléspectateurs.
Non, je pense que d'abord, je pense qu'en même temps, c'est une très bonne formule, car évidemment, quand on est en situation de responsabilité, comme je le disais, il n'y a pas de petits sujets, tout est important, et tout doit être fait, eh bien, effectivement, sur un même pied d'égalité.
On voit bien quand même qu'effectivement, il a démarré dans cette démarche, effectivement, de l'en même temps, de lier les enjeux.
Oui.
Et la difficulté est que, justement, à chaque fois, il arrive pas à le faire passer aujourd'hui aux Français.
Écoutez, encore une fois,
d'arrogance, on parle de déconnexion. Pourquoi?
Non, moi, je vois ça de Bruxelles. Et de Bruxelles, je peux vous dire de Bruxelles. Et quand je dis Bruxelles, encore une fois, c'est la Commission. Je rappelle que Bruxelles, c'est la Commission, c'est le Parlement, c'est le peuple souverain, donc. C'est aussi les États membres, avec le Conseil. Et quand j'en parle, évidemment, avec mes collègues, avec les institutions avec lesquelles j'interfère tous les jours, ce que l'on voit de la France, c'est, je sais que je vais peut-être en étonner certains en disant cela, mais je le dis avec beaucoup de sincérité, on voit un pays qui avance. Alors certes, on a notre histoire, et notre histoire, elle est faite de heures, et ça date pas d'aujourd'hui. On se souvient des lois M'Kommery, on se souvient ensuite, si on remonte, on se souvient de tout ce qui a jalonné les progrès et les évolutions de notre pays, sans remonter à 1789. Notre pays est un pays qui est irruptif. Mais c'est comme ça. C'est dans nos gènes, mais in fine, il avance. Et ce qu'on voit, Damien Fleurot de Bruxelles, c'est effectivement que depuis quelque temps, le pays est en réforme et est en mouvement.
Est-ce que vous voyez depuis Bruxelles cette montée de listes populistes? Oui. Marine Le Pen, par exemple, son parti arrive en tête au scrutin des Européens.
On dit que le plafond de verre
a été brisé, dépassé.
Le premier parti au scrutin des Européennes.
Oui, mais il est très quasiment pas existant. Et bien sûr qu'il existe au sein du Parlement et on le considère comme
troisième
tel.
Troisième force politique, quatrième.
Mais voilà. Et je rappelle que les résultats des élections européennes a été une immense surprise. jamais on a autant voté pour l'Europe que lors des dernières élections. C'est quand même une surprise. Et je rappelle que tout le monde s'attendait à ce que les partis populistes fassent des scores formidables. Ça n'a pas été le cas en Autriche, ça n'a pas été le cas aux Pays-Bas, ça n'a pas été le cas dans la plupart des pays de l'Union, ça n'a pas été le cas en Italie. Ça a été beaucoup moins parce qu'il était prévu.
Bien sûr que je crains. L'opposante numéro 1 de Emmanuel Macron en 2022, par exemple.
Non, mais je n'ai pas à craindre ou à pas craindre. Je vois les faits. Les faits sont là. Je dis simplement que entre le discours, souvent du reste les excès du discours, voire la violence des discours, et la réalité, fort heureusement, il y a une différence.
Mais ça ne vous inquiète pas que les partis traditionnels dits de gouvernement, droite et gauche, ne soient plus capables d'avoir aujourd'hui, à ce stade en tout cas, une offre politique capable de casser ce match tellement annoncé ?
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que tout ce que nous venons de parler maintenant au cours d'une heure ensemble, tous les trois, avec nos auditeurs, nous démontre donc que les enjeux, c'est effectivement des enjeux d'un monde numérique, d'un monde vert, d'un monde où la souveraineté de notre continent va devenir essentielle. Et effectivement, je crois que les partis politiques et les partis de gouvernement doivent profondément s'en imprégner pour exercer leur mission dans ce monde nouveau qui se dessine.
Merci, c'était le grand rendez-vous de Thierry Breton. Vous pourrez retrouver cette émission sur un podcast. À dimanche.
Merci Mickaël Darmon. En effet, avant de vous retrouver dimanche prochain à la même heure, donc à 10h, on peut toujours réécouter en podcast tous les grands rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Restez avec nous, votre programme n'est pas fini sur Europe 1. La preuve, dans un instant, Frédéric Taddeï vous emmènera en balade dans les rues parisiennes avec son invité du jour. Bonjour Frédéric, qui part avec vous aujourd'hui ?
Bonjour Justine, c'est Emmanuel Todd qui nous emmène en balade avec lui aujourd'hui dans les rues de son enfance. Il est d'ailleurs tout excité, il ne tient plus en place.
Alors on a d'y être. À tout de suite.